L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Lundi 5 mai, l'Assemblée votait à l'unanimité une loi pour renforcer l'inclusivité scolaire des enfants en situation de handicap. Cette loi portée par Julie Delpech, députée Renaissance de la première circonscription de la Sarthe, repose sur trois mesures qui doivent assurer un meilleur suivi individuel des enfants, mais aussi permettre une évaluation plus globale et détaillée des besoins concernant l'inclusivité à l'école. On examine donc cette loi avec Julie Delpech, rapporteure du texte à l'Assemblée et députée Renaissance de la première circonscription de la Sarthe. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors tout d'abord, il faut noter que les effectifs des élèves en situation de handicap dans le milieu scolaire ordinaire ont triplé entre 2006 et 2022. Il y a donc a priori une dynamique positive de l'inclusion scolaire. Alors à quel besoin répond cette loi ? En quoi le parcours inclusif des enfants a-t-il tout de même besoin d'être renforcé ?
Alors déjà, merci de me recevoir pour parler de ce sujet qui me tient beaucoup à cœur. Alors déjà, je précise que le titre de la proposition de loi a évolué pendant les débats parlementaires et englobe désormais les élèves à besoins éducatifs particuliers.
Effectivement, c'est le titre de la loi. Alors voilà. ça désigne deux réalités différentes du coup.
Donc en fait, il y a les élèves en situation de handicap et on a suite au débat parlementaire élargi le texte et ça regroupe l'ensemble des élèves à besoins éducatifs particuliers, donc autant les enfants en situation de handicap que les enfants avec des troubles du spectre autistique, etc. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir quelque chose d'un peu plus large et ça a fait l'unanimité à l'Assemblée nationale, donc c'est très, très positif.
Alors du coup, excusez-moi, je vous avais interrompu dans le début de votre réponse à ma question. Pourquoi la nécessité de renforcer ce parcours alors ?
Parce que quand on est parlementaire, on reçoit beaucoup de citoyens dans nos permanences et moi j'ai échangé avec un certain nombre de citoyens qui ont des enfants soit en situation de handicap mais aussi plus largement à besoins particuliers, et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un vrai parcours du combattant pour les familles. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Je pense qu'on est un pays où on a vraiment beaucoup de choses qui sont faites. Et la loi de 2005, pour ça, a apporté beaucoup sur le handicap à l'école. Et vous l'avez dit, le nombre d'élèves scolarisés a triplé. C'est très bien. Mais ça reste difficile pour les parents d'avoir une lisibilité de qui fait quoi et vers qui on va pour avoir des réponses et pour adapter les choses à l'école. Et partant de ça, en échangeant aussi avec le personnel éducatif, on est face aussi à des enseignants souvent un peu démunis face à des situations de handicap ou d'autres pathologies qui ne sont pas formés à prendre en charge ces handicaps-là dans l'instruction de l'enfant, ce qui est normal, on ne peut pas les former à l'ensemble des situations. Et en fait, je me suis dit, on est démunis alors qu'on a plein de dispositifs qui existent, dont le LPI, le livret de parcours inclusif dont on va parler, je pense. Et donc, je me suis dit, on a des choses qui existent, comment on les renforce, et moi c'est ce que j'ai voulu faire par cette proposition de loi.
Donc en fait l'idée c'est de résoudre une difficulté de mise en œuvre des outils qui existent déjà. Alors cette loi elle s'articule autour de trois axes, la généralisation du livret de parcours inclusif, la remise par le gouvernement au Parlement d'un rapport détaillé sur l'inclusivité scolaire et la mise en place de formations. Alors on va expliciter un petit peu chacun de ces trois axes. D'abord donc ce livret de parcours, en quoi est-ce que ça consiste ? En fait ça fonctionne comme un carnet de santé mais pour la scolarité, c'est ça ?
Alors en fait, le LPI, il a été créé en 2019. Il aurait dû être généralisé en 2022. On n'est toujours pas à un taux d'ouverture de 100%. Le livret de parcours inclusif, c'est quelque chose qui est aujourd'hui à la main du chef d'établissement. De dire, voilà, cet élève-là, on met des choses en place, on adapte sa scolarité. Donc on ouvre un livret qui nous permet d'y rentrer tout ce qui est mis en place pour l'élève et d'avoir un meilleur suivi. Et en fait, ce LPI qui n'est pas aujourd'hui très utilisé, pas assez, il peut être très puissant. Parce qu'en fait, moi, l'idée avec cette loi, c'est que déjà, il soit déployé partout, ce qui aurait dû être le cas en 2022, qui n'est pas le cas.
Et que pourquoi ça n'avait pas été le cas, pardon ?
Parce que comme c'est à la main des chefs d'établissement et que ce n'est pas obligatoire, tous les chefs d'établissement aujourd'hui peuvent en ouvrir.
Il n'y a pas une volonté spontanée de tous les chefs d'établissement.
Non, alors il n'y a pas forcément la connaissance non plus assez approfondie de l'outil. Voilà, il y a plein de raisons qui font qu'aujourd'hui, on n'est pas un taux d'ouverture auquel on devrait être. Et en fait, ce LPI, il peut être très puissant et il peut surtout vraiment accompagner les familles dans ce qu'elles appellent le parcours du combattant. Le parcours du combattant, c'est quoi? C'est ce que je vous disais au début, c'est comment on trouve les infos. Et puis, c'est surtout, une fois qu'on a les interlocuteurs, on doit répéter. On va à la MDPH, on répète. On est à l'école, on répète. On va voir l'orthophoniste, on répète. Et en fait, pour les parents, c'est épuisant. Et surtout, on en arrive à ce qu'il y ait des trous dans la raquette. Puisque parfois, l'école va mettre des choses en place à l'école pour adapter la scolarité pour l'enfant. Et puis, quand on arrive à la MDPH, il faut reconstituer un dossier auprès de la MDPH. Et en fait, on a pas de lieu où sont centralisées toutes ces informations-là. Les enfants qui vont voir une ergothérapeute ou un orthophoniste, ces professionnels-là de santé mettent des choses en place pour aider l'enfant, mais n'arrivent pas à les communiquer au personnel éducatif à qui ça pourrait aussi servir d'avoir ces boîtes à outils.
Et donc, c'est tous ces professionnels qui contribuent à remplir ce livret.
Maintenant, oui. D'accord. Avec cette loi, c'est l'objectif. C'est que l'ensemble des personnels et des professionnels et de la famille qui encadrent et qui entourent l'enfant puissent consulter et alimenter ce livret. Évidemment qu'il n'y aura pas d'informations médicales puisqu'il y a le secret médical. Par contre, l'orthophoniste peut dire, voilà, moi, je travaille sur des exercices comme celui-ci avec l'enfant. Vous pouvez aussi les mettre en place en classe et ça lui facilitera l'appréhension de la lecture ou des mathématiques. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait tout recentré au même endroit et que même quand les parents en arrivent du coup à devoir faire une demande à la MDPH, tout soit déjà centralisé dans ce LPI et qu'il n'y ait pas de manquement dans le dossier que va déposer la famille de l'enfant auprès de la MDPH, puisque tout sera centralisé. Et ça répond aussi à une autre problématique qui est le changement de niveau scolaire. Quand on passe du primaire au collège, eh ben, on a une déperdition d'informations, c'est pas le même établissement. Donc la famille doit soit répéter, mais c'est parfois difficile de se rappeler de tout. Pareil quand on passe du collège au lycée, quand on change de département, quand on change de région. Donc l'idée, c'est que ce LPI suive l'enfant pendant toute sa scolarité.
Oui, mais alors le problème, c'est que d'année en année, ça veut dire que ce livret, il va augmenter. Il va peut-être devenir de plus en plus conséquent au niveau de sa densité. Est-ce que les chefs d'établissement ou les professeurs pourront vraiment étudier ces livrets dans le détail?
Alors, c'est un outil en ligne. Les parents pourront décider de qui voit quoi comme information, parce que un orthophoniste n'a pas besoin de voir les mêmes informations que l'enseignant, etc. Et évidemment, quand il y a des évolutions, ce qui n'existe plus est supprimé du LPI. L'idée, c'est d'avoir une cartographie des besoins de l'enfant à l'instant T.
Alors, la problématique de la formation des professionnels est centrale, d'où la proposition de la mise en place de formation. Concrètement, comment ça va être mis en place? Est-ce qu'on peut en dire un peu plus là-dessus?
Alors, ce que j'ai constaté dans la préparation de la PPL, mais de la proposition de loi, pardon, mais aussi dans les auditions après en vue du rapport, c'est que on a plein de professionnels qui interviennent auprès des enfants, mais en fait, c'est des professionnels qui ne se parlent pas. Que ce soit les enseignants, les AESH, qui sont un maillon extrêmement important dans le parcours des enfants qui sont en situation de handicap, mais aussi l'ensemble des professionnels de santé qui les entourent. Personne n'arrive à se parler alors que chacun intervient auprès de l'enfant et met des choses en place. Et donc, dans cette loi, on intègre le fait qu'il doit y avoir des formations intermétiers, interministérielles, des formations croisées au sein de l'établissement, où l'ensemble des personnels qui interviennent auprès d'un enfant ont un temps ensemble où chacun se dit ce qui est mis en place et chacun s'auto-alimente des actions des uns des autres pour être plus efficace dans la prise en charge de l'enfant. En fait, cette PPL, elle a...
C'est-à-dire que ces formations, elles ne sont pas données par des professionnels qualifiés, ça veut dire?
Alors, c'est entre eux, mais par exemple, moi, quand j'ai échangé avec la Fédération française des orthophonistes, ils me disaient, nous, on aimerait pouvoir aller former les enseignants qui ont des élèves avec des besoins particuliers sur les méthodes qu'on met en place dans nos cabinets pour que ça leur simplifie l'apprentissage en classe. Et donc l'idée, c'est de se dire, ok, on a ça doit être très personnalisé en fait. On a cet enfant-là qui a tel besoin. Bah, on fait venir tel et tel professionnel à la réunion et l'ergothérapeute va pouvoir former les enseignants à la méthode d'écriture sur laquelle elle travaille avec l'enfant. L'orthophoniste va pouvoir donner les outils qu'il met en place. Chacun doit s'alimenter et se former en fonction du champ de compétences sur lequel il agit.
Alors, c'est-à-dire que ces formations, elles vont porter sur un enfant individuel.
L'idée, c'est
donc
vraiment...
Donc, faut une formation pour chaque enfant, du coup.
Alors, dans l'idée, déjà, on a des enfants qui ont des pathologies similaires. L'idée, c'est que ça se fasse au sein de l'établissement.
Mais une pathologie similaire ne veut pas forcément dire les mêmes besoins.
Non, mais l'idée, c'est que ça fasse au sein de l'établissement. Donc, au sein de l'établissement, on a X enfants qui sont accompagnés et qui ont des besoins spécifiques particuliers. Et après, on en viendra au PAS, je pense que, enfin, au pôle d'appui à la scolarité, vous allez en parler, mais ça sera en lien avec ça. Et l'idée, c'est de se dire sur les problématiques d'ergothérapie, d'orthophoniste, voilà les bases. Et après, on peut approfondir en fonction des cas des enfants. Évidemment, le sujet de ma PPL, c'est l'intérêt de l'enfant et comment on arrive à tout mettre en place pour que l'enfant ait une scolarité la plus normale possible, mais surtout la plus fluide, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Alors, on va venir justement à ces PAS que vous avez évoqués. Le gouvernement a en effet déposé un amendement pour la généralisation des pôles d'appui à la scolarité d'ici 2027. Alors, qu'est-ce que c'est, en fait, ces pôles d'appui à la scolarité ?
Alors, les pôles d'appui à la scolarité, ils sont aujourd'hui en expérimentation. Elles se terminent dans 4 départements en France. Et l'idée, c'est de les généraliser en 2027. Les pôles d'appui à la scolarité, c'est quoi ? C'est de se dire que... on va détecter chez un enfant une difficulté et on va pouvoir tout mettre en place tout de suite, que ce soit au niveau éducatif et au niveau médico-social. Aujourd'hui, comme on est sur des métiers qui ne se parlent pas et c'est très cloisonné, l'idée c'est de se dire on fait au sein de l'établissement tout de suite les démarches pour que l'ensemble de l'écosystème qui va agir auprès de l'enfant soit mis en place vite. Et ça répond à une autre problématique, c'est-à-dire que les pôles d'appui à la scolarité, comme ils vont regrouper le médico-social et l'éducatif, on va déjà pouvoir mettre des adaptations en place pour l'enfant. Parce que sinon, il faut attendre les notifications MDPH, quand il y a un dossier MDPH. Et aujourd'hui, par exemple, en Sarthe, on est sur 6 à 8 mois de délai. Il y a des départements où c'est 14 mois de délai. Il y a des départements où ça se passe mieux et c'est plus simplement, en tout cas, et c'est 2 mois de délai. En tout cas, c'est assez hétérogène sur l'ensemble du territoire. Et quand on est sur 8 à 10 mois de délai, par exemple, c'est une année scolaire. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut rien mettre en place pour l'enfant pendant 8 à 10 mois, le temps que la MDPH traite le dossier. Donc là, l'idée, c'est qu'on puisse déjà, avant les MDPH, pouvoir mettre en place des choses pour les enfants, ce qui n'empêche en rien, évidemment, après d'avoir les dossiers MDPH.
Alors, une autre problématique qui découle des remarques que j'ai déjà pu soulever, les professeurs et enseignants se plaignent de ne pas être en capacité d'adapter leurs cours ou de pouvoir assurer un suivi particulier pour les enfants qui en auraient besoin dans des classes surchargées. De même, les AESH qu'on a évoqués, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, ont manifesté leur colère récemment face au manque de moyens techniques, humains et financiers. Alors, est-ce que le manque de personnel ne constitue pas en soi un frein à l'inclusion scolaire ? Est-ce qu'elle n'est pas là la racine du problème dans le manque de moyens de l'éducation nationale aujourd'hui ?
Alors je pense que c'est plus complexe que ça. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que déjà on est face à des enseignants souvent démunis puisqu'ils ne se sentent pas formés sur ces sujets d'école inclusive. Aujourd'hui, il y a 25 heures de formation en formation initiale sur ces sujets-là. À la rentrée prochaine, c'est 50 heures. Je sais très bien d'avoir doublé le nombre d'heures. Ça reste néanmoins, je pense, pas suffisant pour appréhender l'ensemble de la problématique de l'école inclusive. Donc je pense que déjà sur la formation initiale, il va falloir que le gouvernement aille plus loin en formation initiale sur ces sujets-là. Le deuxième point, sur les AESH, et vous faites bien de l'évoquer, puisqu'elles sont des maillons essentiels pour les élèves en situation de handicap, moi je pense que le statut de l'AESH, c'est un vrai sujet. Par contre, c'est pas un sujet que j'ai souhaité traiter dans ma PPL, parce que je pense que c'est un sujet qu'on doit traiter quand on parle du budget. Parce que, vous l'avez très bien dit, il y a un sujet de moyens sur les AESH. Moi, si j'avais traité le sujet des AESH dans ma PPL aurait probablement été irrecevable, puisque charge financière. C'est comme ça que ça marche à l'Assemblée nationale. Moi, je pense que c'est un sujet dont on doit s'emparer au moment du budget. Et en plus, l'avantage de s'en emparer au moment du budget, c'est que le budget, on sait quand il commence, on sait quand il se termine. Moi, ma PPL est passée à l'Assemblée. Maintenant, il faut qu'elle passe au Sénat. Ça peut être un peu long. Et puis, il faut qu'après, elle puisse être revotée à l'Assemblée. Et on n'a pas forcément On n'a pas de délai contraint sur les PPL, donc ça peut prendre beaucoup de temps.
Alors, on va devoir accélérer un peu. Je vais quand même mentionner le troisième axe de votre proposition de loi qu'on n'avait pas encore évoqué. C'est la mise en place d'un rapport détaillé établi par le gouvernement et remis au Parlement pour mieux cibler les besoins en termes d'inclusion scolaire. Alors, cependant, vous l'avez dit vous-même, Julie Delpech, à la fin de votre intervention à l'Assemblée nationale le lundi 5 mai, cette proposition ne prétend pas tout régler. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour obtenir des résultats drastiques en matière d'inclusivité scolaire? Quel est l'objectif à long terme en fait de Renaissance sur ce sujet, et qu'est-ce qui vous freine actuellement?
Alors moi, déjà ce rapport, je veux dire quand même qu'il va être piloté par le comité ministériel de suivi de l'école inclusive en lien avec les comités départementaux de suivi de l'école inclusive. Aujourd'hui, on n'a pas de chiffres, enfin, on a beaucoup de chiffres très éparpillés, mais on n'a pas de chiffres qualitatifs sur les.
Mais il y a rien qui permet de dresser
sur les politiques publiques de l'école inclusive. Et surtout, on a des comités départementaux de suivi de l'école inclusive qui ne fonctionnent pas tous pareil. Et donc, on n'arrive pas à avoir de données similaires dans l'ensemble du territoire. Donc, moi, ce que je veux avec ce rapport, c'est qu'on puisse, et il doit être remis, et c'est écrit dans ma loi, avant l'examen des textes budgétaires à l'Assemblée nationale, parce qu'on doit pouvoir mesurer l'efficacité de nos politiques en termes d'école inclusive. Ça, c'est extrêmement important pour que nous, après, au moment du budget, on puisse voir où sont les trous dans la raquette et voir comment on doit ajuster nos politiques publiques. C'est le premier point. Le deuxième point, sur le côté plus global de l'école inclusive, il y a énormément de sujets. Il y a le sujet de la formation, on en a parlé, et je pense que la formation initiale... Je pense qu'en France, on se trompe sur comment on aborde l'école inclusive. C'est qu'aujourd'hui, un enfant qui a des besoins éducatifs particuliers, on va adapter l'enseignement pour qu'il puisse suivre. Alors que moi, je pars du principe que si on avait un enseignement qui permet à un enfant à besoin particulier de suivre, tout le monde pourrait suivre. Donc en fait, je pense qu'il faut qu'on revoie l'ensemble de nos programmes et qu'on rentre par l'inclusion plutôt qu'on demande aux enfants qui ont des besoins de s'adapter. Et là, c'est un changement de paradigme assez important. Mais je pense, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je vais porter au sein de mon parti, c'est qu'on puisse vraiment changer notre manière d'enseigner et qu'elle soit dès le début accessible à tout le monde. Et je pense que déjà, on aura fait un grand pas dans l'école inclusive.
À tout le monde, c'est-à-dire à absolument tous les enfants, peu importe le handicap.
Il faut un enfant qui a des besoins particuliers, qui a des difficultés d'apprentissage. Moi, j'ai rencontré... Oui,
je vous parle parce que vous dites à tout le monde. Vous incluez les enfants...
Si on adapte un programme à un enfant qui a des besoins particuliers, ça veut dire qu'un enfant qui n'en a pas peut suivre. Si l'enfant qui a des besoins particuliers arrive à suivre.
Oui, mais je veux dire, par exemple, les enfants qui sont dans les classes Ulysse, etc., il n'est pas question de les inclure
dans
le...
Non, là, je vous parle des classes
ordinaires, d'accord.
Où on a des enfants qui ont des besoins... Tous les enfants ne sont pas en classe Ulysse. Il y a beaucoup d'enfants, et c'était le but de la loi de 2005, qui sont scolarisés en milieu ordinaire,
oui,
avec des besoins particuliers.
Oui, d'accord.
Donc là, je parle vraiment de la classe, de la classe qu'on appelle en milieu ordinaire. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir des programmes qui permettent à tout le monde de suivre et qu'on n'ait pas à adapter pour les enfants qui ont des besoins. Parce que déjà, c'est de l'exclusion. Si on ne suit pas le même programme de la même manière que tout le monde, ce n'est pas de l'inclusion.
Mais qu'est-ce qui vous freine concrètement? Parce que
Alors là, ça ne dépend pas de nous, parlementaires. C'est au ministère de l'Éducation nationale. Et j'en ai parlé avec la ministre Elisabeth Borne quand on s'est vu pour préparer ma PPL. Évidemment, elle est d'accord avec moi sur le principe. Enfin, je pense que ça semble logique à tout le monde. Après, c'est un gros travail à faire avec l'ensemble du personnel éducatif. C'est un changement de braquet important qu'il faut faire. Après, la ministre en a parlé et je pense qu'elle veut le déployer assez vite. On a aussi le sujet des AESH qui aujourd'hui ont des conditions difficiles et qui, à terme, on a le souhait qu'elle puisse être rattachée à un établissement et qu'elle n'ait plus à se déplacer d'établissement en établissement.
Je vous remercie, Julie Delpech, députée Renaissance de la première circonscription de la Sarthe et rapporteure de la proposition de loi sur le renforcement du parcours inclusif pour les enfants à besoins particuliers dans le milieu scolaire. Loi votée à l'Assemblée à l'unanimité le 5 mai dernier. Merci beaucoup.
Merci à vous.
L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.